Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Linda Christelle Ballier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio de la Paix. En titre de ce 12h, des membres du Conseil constitutionnel en fin de mandat ont été célébrés hier à Abidjan. Leur passage dans cette institution aura été fructueux selon les initiateurs de la cérémonie d'hommage. La Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement s'accordent pour redynamiser la formation professionnelle afin de favoriser une insertion socio-professionnelle des jeunes. Et sur le continent, Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS à Johannesburg, annoncé hier, ce mercredi. La présidence sud-africaine mettant fin à plusieurs mois de spéculation sur le sujet. Et puis, avec le fondateur de Africa Jump Center, aujourd'hui invité de la rédaction, il sera question de la décision du président sénégalais Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat sur le sujet. Et en fin d'édition, Alioune Tin échangera avec Soro Adams. Voilà pour le sommaire. Des membres du Conseil constitutionnel dont le président sont en fin de mandat, ils ont été célébrés hier au cours d'une cérémonie d'hommage à Abidjan Cocody. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Jean-Claude Comi.
Ils sont au nombre de 4, les membres du Conseil constitutionnel en fin de mandat. Et avant leur départ, leurs collègues encore en exercice sont tenus à souligner par la voix de la haute conseillère Assata Kone-Épouse Silué le travail qu'ils ont ensemble abattu.
En 2021, nous avons assuré le contentieux des élections législatives, sans compter la prestation de serment du vice-président de la République ainsi que des membres de la commission électorale indépendante. On peut citer également la procéduralisation de la prestation des serments du président de la République. Je n'oublie pas la procédure d'installation du nouveau président du Conseil constitutionnel. Oui, Madame et Messieurs les hauts conseillers, votre mandat fut fécond et vous avez accompli votre mission avec sagesse.
Cette occasion a permis également à Kone Mamadou, président sortant du Conseil constitutionnel, de dire sa part de vérité sur la responsabilité ou non de l'institution dans la crise électorale de 2020.
Même si certains de nos compatriotes ont pu penser, sûrement de bonne foi, que c'est le Conseil constitutionnel qui a été à l'origine des 85 morts de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Avec fermeté, je m'inscris en faux contre cette assertion qui ne traduit nullement la réalité. Il ne peut pas être reproché au Conseil constitutionnel d'avoir causé quelque violence que ce soit du fait de cette décision.
En signe donc de reconnaissance et de promotion du travail bien fait, une quarantaine de membres du Conseil constitutionnel a été décorée pour la circonstance.
Et puis, s'agissant des élections du 2 septembre prochain, Civis Côte d'Ivoire affirme avoir fait le constat du non-respect par certains candidats de la déclaration de patrimoine. L'organisation, via son président, donne de la voix. Dr Christophe Kwame demande que les candidatures qui ne déclarent pas leur patrimoine soient invalidées. Nous l'écoutons.
Je précise que c'est la première élection depuis le cycle de la loi qui impose la déclaration des patrimoines. Malheureusement, quand vous regardez le tableau, il subsiste à l'évidence des candidats sortants, des membres de l'administration publique assujettis, qui n'auraient pas, à la date où nous sommes en train de parler, déclaré leur patrimoine. Donc, la question que nous posons à la Commission électorale indépendante, CEI, et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, c'est quel sera le traitement des candidatures des gens qui seront sur la liste des maires, des gens qui seront sur la liste des conseils régionaux, qu'ils soient sortants ou qu'ils soient de l'administration publique qui soit nouvellement sur les nouvelles listes. Donc, est-ce que la CEI, est-ce que la Haute Autorité va invalider ces candidatures? Voilà l'inquiétude de Civis Côte d'Ivoire pour ces élections locales 2023.
Et qu'est-ce que Civis propose comme traitement à ces candidats?
Pour nous, la loi est claire. Vous ne pouvez pas être candidat si vous ne respectez pas un minimum de loi. Pour Civis, c'est clair, il n'y a pas de discussion. Tous ces candidats doivent être éliminés des listes parce que nous faisons la promotion de la bonne gouvernance, nous faisons la promotion de l'éthique et de la transparence dans la gestion des finances publiques.
À l'instant, Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, il a été joint par Soro Adams. Et rappelons que le dépôt des candidatures s'achève aujourd'hui, 17h, au siège de la CEI à Abidjan-Cocody. Et puis, toujours, les locales du 2 septembre sont au cœur de notre édition et cela préoccupe les délégués du Conseil national, le délégué du Conseil national de la jeunesse pour la région du Bekè. Ouattara Kifori Inza a profité récemment d'une rencontre avec différentes structures de jeunes pour appeler à des élections locales apaisées afin de contribuer à booster le développement local.
Depuis que nous sommes à la tête de cette jeunesse, au niveau de notre région, nous avons initié bon nombre d'activités afin de pouvoir inculquer le vivre ensemble, le civisme, l'esprit entrepreneurial à l'ensemble des jeunes. Aujourd'hui, la ville de Bouaké, le Bekè, rassure de plus en plus les autorités étatiques, les partenaires au développement. Vous voyez que Bouaké est en chantier. C'était l'une des conditions, la paix et la tranquillité. Le président de la République, à travers les autorités, nous ont demandé de mettre tout en œuvre pour que Bouaké soit en paix. Aujourd'hui, Bouaké est en paix. Et les jeunes du Bekè, en tout cas, bénéficient des opportunités que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition à travers l'Agence emploi jeunes. Et toutes ces infrastructures qui sont en marche, ce sont les fils de Bouaké qui bénéficient effectivement de ces opportunités. Cette année, c'est une année électorale. Il revient à chaque jeune de continuer à préserver la tranquillité dans son quartier, dans son village, afin que ce développement qui est déjà en marche puisse véritablement impacter positivement les uns les autres. 2023, nous voulons des élections apaisées. Dans le Bekè. Une élection, c'est la démocratie. On choisit son candidat dans la tranquillité, on rentre chez soi et on attend la commission électorale nous donner, en tout cas, le verdict des urnes. Nous voulons des jeunes responsables, des jeunes civilisés, des jeunes qui pourront véritablement promouvoir la démocratie à travers les urnes.
Ouattara Kifori Inza au micro de Joseph Assali, notre correspondant régional que nous venons d'écouter. La Côte d'Ivoire et l'AFD, entendez l'Agence française de développement, s'accordent pour redynamiser l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ceci pour, entre autres, favoriser une insertion socio-professionnelle des jeunes, mais aussi renforcer leurs capacités. Les deux entités ont à cet effet signé un partenariat le mardi dernier à Abidjan. Le point avec Francis Cassi.
Ouvrant la série des allocutions à cette rencontre, la ministre du Plan et du Développement a salué sa tenue, Niali Kaba.
Cette session est donc une opportunité pour analyser profondément les déterminants de l'efficacité interne et externe du dispositif de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le contexte de la mise en œuvre des programmes Académie des Talents et École de la Deuxième Chance.
L'AFD, l'Agence française de développement, pour sa part, s'est félicitée d'être associée à cette initiative ivoirienne. Thomas Mélonio, son directeur exécutif innovation, stratégie et recherche.
Nous allons nous engager dans la signature d'un mémorandum pour ma part de dialogue stratégique avec le ministère du plan et du développement qui va permettre d'intensifier le partenariat non seulement de financement de l'AFD dans les infrastructures, dans l'éducation mais aussi pour la capacité du gouvernement de Côte d'Ivoire qui l'a souhaité de mieux piloter, de mieux évaluer ses politiques publiques.
Le secrétaire général de la présidence ivoirienne dans son allocution d'ouverture de la cérémonie a magnifié ce partenariat. Abdourahman Sissé.
Un partenariat qui permettra de former à la fois les étudiants, mais aussi les cadres des chercheurs ivoiriens en évaluation des politiques publiques. Nous sommes dans une logique aujourd'hui de capacity building. On souhaite qu'on puisse avoir ici des personnes qui soient capables eux-mêmes de faire des évaluations de politiques publiques.
Présent à cette cérémonie aux côtés des personnalités susmentionnées, le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Nguessan Koffi, a de son côté salué les actions du gouvernement pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes.
Prenons la direction de Yamoussoukro où un séminaire de renforcement des capacités des agents de la Direction générale des impôts se tient du 17 au 23 juillet prochain, organisé par le PAGEDES, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Ce séminaire vise à former ces agents en planification et suivi évaluation selon la méthode de gestion axée sur les résultats. Le compte-rendu d'Emile Yao.
Face aux défis de plus en plus croissants en termes de mobilisation des ressources fiscales intérieures à la hauteur des attentes des autorités ivoiriennes, la Direction générale des impôts s'est engagée dans une dynamique de réforme en se dotant d'un plan stratégique 2022-2025. Un plan au menu de ce renforcement des capacités.
Après un an de mise en œuvre, il importe que ce plan stratégique puisse faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation. Il relève de la compétence des points focaux. Mais cela ne peut se faire si les points focaux ne disposent pas des outils nécessaires à la réalisation de cette activité.
C'est pourquoi, de ce renforcement des capacités, la Direction générale des impôts en attend énormément, indique Kone Yaya, représentant du directeur général de cette régie financière.
Mesdames et messieurs les participants, monsieur le directeur général des impôts me charge de vous dire qu'il voudrait vous exhorter à suivre cette formation avec beaucoup d'intérêt et un esprit critique afin de cerner tous ses contours. L'activité que vous allez mener ici est une activité qui est innovante. À la DGI.
Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens continuera d'accompagner la Direction générale des impôts, rassure Agou Maurice, membre de la coordination de ce projet.
Nous sommes prêts, au nom de la coordination, à étendre nos actions pour, vu que cela concourt, à accroître la collecte.
Rappelons que les recettes recouvrées par la Direction générale des impôts sont passées de 2147 milliards en 2018 à 3205,7 milliards en 2022, soit une hausse de 49,3%. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Intéressons-nous à présent à la lutte contre la rage dans le Haut-Sassandra suite à plusieurs décès liés à la maladie. La commune de Daloa et la sous-préfecture de Zaïbo ont été déclarées zones infectées. Face à cette situation, le ministère des Ressources animales et halieutiques a initié une campagne d'information, de sensibilisation et de vaccination gratuite contre la rage. Jean-Noël Kwame nous en parle.
François Kouassi, le directeur régional des ressources animales et halieutiques du Haut-Sassandra, a invité les populations à faire vacciner urgemment leurs animaux de compagnie.
Dans le courant du mois de juin, ce sont trois de vos compatriotes qui ont succombé des suites de morsures de chiens infestés de rage. Je voudrais exhorter toute la population de sortir massivement avec vos animaux de compagnie pour les faire vacciner. Cette vaccination est gratuite. La rage, elle est très dangereuse pour l'homme et pour nos cheptels. Tous ensemble, elle sera vaincue.
Manoua Bilé, directeur départemental de la santé, a également insisté sur le danger que représente la rage humaine.
La rage est une maladie qui est mortelle à 100% dès que les premiers signes apparaissent. Lorsque vous êtes exposé à une morsure, une griffure ou à une léchage de plaie, il faut automatiquement faire la vaccination post-exposition. Si vous ne le faites pas et que la rage se déclenchait, on ne peut plus rien faire.
Une équipe d'experts conduite par le directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques, Kolo Vessali, a été dépêchée dans l'urgence pour appuyer cette riposte contre la rage. Cette campagne de vaccination gratuite contre la rage se déroule du 18 au 20 juillet 2023 à Daloa, Zaïbo et à Bonoufla dans le département. Département de Vavois. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Dans l'actualité sur le continent, le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie, prévu fin août à Johannesburg, annoncé mercredi. La présidence sud-africaine mettant fin à plusieurs mois de spéculation sur le sujet. Cette annonce épargne un épineux dilemme à Pretoria qui préside les BRICS et refuse donc de condamner l'invasion russe de l'Ukraine. Poutine est en effet visé par un mandat de la Cour pénale internationale et en tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censée l'arrêter s'il entre sur son territoire. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de sport, de football, précisément notamment l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le COCAN, comité d'organisation de l'événement, a officiellement lancé hier mardi 18 juillet à Abidjan-Trècheville le recrutement de 10 000 volontaires pour la compétition. François Albert Amichia, président du COCAN, nous donne une idée du rôle de ces derniers.
Pour accueillir l'ensemble de nos invités dans les conditions optimales, depuis l'aéroport jusqu'au gradin des stades, en passant par les hôtels, l'appui des volontaires est indispensable, tout autant qu'il est pour l'encadrement des publics devant les stades et à l'intérieur des stades, pour que chacun et chacune retrouve sa place sur les gradins et puisse retourner à son hôtel sans encombre. Ils sont les premiers visages de l'hospitalité ivoirienne. Chers jeunes, à travers votre adhésion à ce programme, le COCAN souhaite se rapprocher de vous, de vos parents et amis, pour leur dire que la CAN c'est notre affaire à tous. Votre implication reste précieuse, car c'est par vous que les actions du COCAL seront mieux comprises dans les quartiers, les bureaux, les ateliers, les instituts et les universités. Chacun des spectateurs, y compris les Ivoiriens, sera notre invité, et puisque notre devise, c'est la canne de l'hospitalité, il nous incombe de relever les défis de l'accueil, de l'hébergement, tout autant que ceux de l'organisation et de la victoire des éléphants.
François-Albert Amichia, président du COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous arrivons au dernier temps fort de ce journal, à savoir l'invité de la rédaction qui aujourd'hui est Alioune Tine. Le fondateur de Africa Jump Center pose son regard sur la situation au Sénégal, notamment les crises en lien avec l'opposant Ousmane Sonko et la décision récente du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Depuis Dakar, Alioune Tine répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour monsieur Alioune Tine.
Bonjour.
Lundi 3 juillet 2023, message de Macky Sall aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le chef de l'État annonce qu'il ne sera pas candidat aux élections de février 2024. Monsieur Alioune Tine, une telle issue était-ce prévisible?
Franchement, ce n'était pas prévisible. Hein. Tous les actes qui avaient été posés auparavant, si vous voulez, entraîner comme lecture la participation du président Macky Sall aux élections de 2024. Il y avait une très forte poussée de ses partisans. La veille même, il y a eu 476 maires qui sont venus le voir pour lui présenter une pétition, pour lui demander de participer. Donc, il y avait une très forte pression de ses partisans, des partisans de son parti, de sa coalition. Et bon, il semblait aussi hostile à tous ceux qui militaient contre le troisième mandat. Bon, tout cela, l'un dans l'autre, nous pensons que ça a été une grosse surprise, une belle surprise. Nous pensons effectivement que ça a été un moment de délivrance, après avoir vécu quand même un suspense, un long suspense, suspense de tension, de violence. Mais à la fin, il y a eu cette délivrance, où le Sénégal se reconnaît lui-même à travers une décision extrêmement importante, celle consistant pour le président de la République de dire « je ne suis pas candidat à un troisième mandat ». Parce que lui-même a été un des acteurs et des leaders de la lutte contre le troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Il en a été le bénéficiaire. Il en a vu aussi les conséquences dramatiques et tragiques. Donc c'est très bien effectivement qu'il tire toutes ses leçons pour dire « moi je ne suis pas candidat » et cela quand même l'a réconcilié avec la majorité des Sénégalais, et cette déclaration aussi a réconcilié le Sénégal avec la démocratie.
Mais qu'est-ce qui selon vous a milité à cette décision surprise du chef de l'État Macky Sall?
Mais écoutez, parce que il y a eu quand même une pression nationale qui était là, il y a un climat politique national délétère, il y a eu également aussi la pression internationale qui a joué. Et puis bon, en dernière instance, je pense que c'est sa conscience, parce que il est parti à la Mecque méditer, réfléchir, au moment de foi, de grande foi, et puis c'est à son retour de la Mecque qu'il est venu dire « je ne vais pas être candidat ». Il semble qu'il y a quand même un ensemble de facteurs à la fois objectifs et subjectifs qui ont entraîné cette décision, qui est une décision sage, une décision dont on se réjouit profondément.
Alors, M. Alioune Tine, avec cette décision du président Macky Sall de ne pas se présenter pour un troisième mandat à la présidentielle, est-ce que la tension va tomber au Sénégal?
Il est évident que ça va faire baisser la tension, c'est sûr. Cette décision, d'ailleurs, a fait tomber la tension, ça c'est certain. Mais il est évident que ce n'est pas fini. Je pense qu'il faut continuer le dialogue avec les gens avec lesquels il est dans un désaccord profond. Il faut continuer vraiment à renforcer la démocratie, à renforcer la paix. Il faut continuer à travailler à la réconciliation nationale et puis faire un travail aussi de réforme de nos institutions, surtout de l'institution judiciaire qui a été critiquée, chahutée ces derniers temps. Donc il me semble qu'aujourd'hui, qu'il n'est pas candidat à la présidence, et vraiment il a les coups de franche pour, comme on dit, réparer le Sénégal. Le Sénégal a besoin d'être réparé.
Comment voyez-vous, après cette annonce de Macky Sall, le dossier Sonko?
Bon, le dossier Sonko, il est réglé, mais la question qui se pose, c'est la question de son éligibilité. Pour la justice sénégalaise, je pense que c'est réglé. Mais bon, mais pour moi, les questions sont des questions d'abord politiques, et il faut trouver des solutions politiques qui permettent effectivement une présidentielle inclusive, une présidentielle ouverte, une présidentielle qui se passe dans la paix, dans la sécurité et vraiment dans la sérénité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont vraiment fatigués de la violence, les Sénégalais sont fatigués des tensions politiques. Il faut des solutions politiques aux problèmes qui sont en suspens, des solutions politiques par les dialogues politiques.
Je vous remercie, M. Alioune.
Merci. Bonne journée.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Alioune Tine est le fondateur de Africa Jam Center. Il était avec Soro Adam. Ça, c'est ce qui referme cette édition, le rappel des titres. Des membres du Conseil constitutionnel en fin de mandat ont été célébrés hier à Abidjan. Leur passage dans cette institution aura été fructueux selon les initiateurs de la cérémonie d'hommage. Et puis la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement s'accordent pour redynamiser la formation professionnelle afin de favoriser une insertion socio-professionnelle des jeunes. Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS à Johannesburg, a annoncé ce mercredi la présidence sud-africaine, mettant fin à plusieurs mois de spéculation sur le sujet. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit dans la revue de presse pilotée aujourd'hui par Carlos Condé.
Bonjour à tous. Le Parlement ivoirien était réuni en congrès hier pour écouter les propositions d'avocats.